toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Et toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Et toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Et toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer.
Vous êtes sur Vibration avec moi. Une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Alors donc du coup, je vous présente en tout cas comme Jean Moreau, fondateur de Phoenix.
Oui, c'est bien ça.
Du coup, Phoenix existe depuis 2014 ou je me suis trompée?
Non, c'est ça. Phoenix a été créé en mars 2014, très exactement. Donc, il y a un peu plus de 9 ans maintenant.
Une première question, justement, parce que j'ai vu que vous étiez banquier d'affaires et que vous aviez lancé Phoenix. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose qui est chevillé à votre corps, cette volonté de se battre contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi?
Effectivement, donc, moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance traditionnelle. J'étais même dans une banque d'affaires américaine où je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions. Donc un métier très intense, assez prestigieux aussi, et très axé sur l'économie, la finance, les gros groupes du CAC 40. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. J'étais pas malheureux, mais je trouvais que mon quotidien, mon métier manquait de sens. Et j'aspirais à créer une boîte, une entreprise qui apporte quelque chose à la société et à la planète, et qui fasse tourner le monde dans une meilleure direction, disons. Donc j'ai quitté le confort et les salaires, les bonus de la finance pour, à 30 ans, partir à zéro. Et créer Phoenix en me disant, on va connecter ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Et on va essayer de créer une entreprise un peu hybride qui a à la fois la volonté d'avoir de la croissance, de créer de l'emploi comme une start-up classique, mais qui a en même temps un petit supplément d'âme qui est la mission anti-gaspillage et solidaire. Et donc, ça a marché presque mieux que prévu, mais tant mieux pour tout le monde.
Mais pourquoi le gaspillage alimentaire? Est-ce que vous auriez pu vous orienter vers plein de choses? Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le gaspillage alimentaire?
Eh bien, la vérité, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est très complet, puisqu'il y a à la fois un enjeu environnemental. C'est pas très connu, mais si le gaspillage était un pays, ce serait le 3e contributeur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on a la nourriture produite, transportée, et qui en fin de chaîne est détruite ou incinérée, elle dégage beaucoup d'impact carbone. Donc, on a un gros pilier environnemental. Et évidemment, la deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un pilier social, puisqu'on a un rôle de Robin des Bois. On récupère les invendus chez les usines, dans les magasins, les hypermarchés, les commerces de proximité, et on les redistribue soit au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à l'aide alimentaire classique, soit dans des paniers anti-gaspillage aux consommateurs. Donc on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs fragiles. Donc on a un vrai impact sociétal, et dans la période d'inflation, c'est plus que nécessaire. Et puis il y a un volet digital, technologique, puisque pour faire tout ça, on a créé une application mobile, l'application Phoenix, et une plateforme pour digitaliser l'aide alimentaire et faire en sorte que les dons se fassent de façon fluide. Donc voilà, tout ça fait que c'est un projet qui, à mon avis, est super complet et qui est aussi dans l'air du temps. On a du vent dans les voiles avec toute la dynamique zéro déchet, anti-gaspille, économie circulaire, et aussi malheureusement avec l'actualité brûlante sur l'aide alimentaire, la dynamique inflationniste, la quête de pouvoir d'achat. Donc voilà, on pense que la société qu'on a créée, elle est utile et de plus en plus utile. Et qu'elle constitue un peu un modèle aussi pour la façon de réinventer le rôle de l'entreprise dans la société.
Moi, j'avoue que je trouve ça assez impressionnant, tout ce que vous avez développé, parce qu'en effet, vous dites l'application, donc là, c'est pour les particuliers, vous avez aussi une plateforme pour les associations, et vous aidez aussi les animaux et les parcs animaliers. Avec tout ça, comment ça se fait qu'il y a encore, entre guillemets, du gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est les industriels qui jouent pas le jeu pourquoi?
On fait 3 choses, nous, on récupère les invendus, et puis après, notre métier, c'est de le donner à des assos, à des consos ou à des animaux. Et on pense que c'est cet ensemble de solutions, les 3 filières de deuxième vie réunies, qui font qu'on arrivera vraiment au zéro déchet, zéro gaspillage. Donc les consommateurs, c'est sur une application mobile pour acheter des paniers à prix cassé. Les assos, ce sont les collectes alimentaires des invendus traditionnels, et puis ce qui n'est pas consommé ni par des humains, avec des consommateurs sur l'application, ni par des associations caritatives, c'est proposé à des animaux, donc la SPA, un centre équestre, un parc animalier, un zoo. Et donc, les excédents de nourriture vont nourrir les bêtes plutôt que la poubelle. Donc, on trouve que c'est du bon sens. Et pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi il reste encore du gaspillage? Parce que parfois, c'est encore trop perçu comme un sujet qui est pas un sujet prioritaire. C'est un sujet sympa, sexy, qui donne du sens, mais qui est pas dans le cœur de métier d'un grand magasin, qui est pas au cœur des processus d'une usine. Et donc, il faut qu'on arrive à remonter un peu la chaîne de valeur stratégique et qu'on explique aux décideuses et aux décideurs que non, c'est un projet dorénavant qui est central pour la planète, pour la société et pour tout ce qui est attendu par les consommateurs et les politiques. Et donc voilà, ça c'est notre métier de prêcher la bonne parole. Et donc c'est pour ça que des émissions de radio comme la vôtre ou des journées anti-gaspi comme celle du 29 septembre nous aident à prêcher la bonne parole et à porter ce combat anti-gaspi zéro déchet.
Quand vous dites les décideurs, c'est que il y a pas assez de volonté étatique aussi. C'est pas un sujet qui est central pour le moment.
Alors on a quand même été bien aidé, pour être honnête, par la puissance publique, puisqu'il y a deux choses qui nous aident. La première, c'est qu'il y a une loi anti-gaspillage qui interdit de détruire des invendus encore consommables. Donc avant, ce qui se passait parfois, c'est que les invendus, à partir de J-3, J-2, étaient sortis des rayons, et puis ils étaient javelisés. On mettait un peu de javel dans la poubelle pour pas qu'il y ait de glanage par les SDF du coin. Et ça, c'est devenu interdit. Et donc c'est passible d'une amende qui va jusqu'à 10 000 euros par infraction. Donc il y a vraiment le bâton réglementaire, la loi qui interdit de jeter. Après, elle est plus ou moins respectée sur le terrain, mais en tout cas, les politiques ont fait le boulot, disons. À côté de ça, il y a un deuxième dispositif en miroir, qui est pas un bâton, qui est plutôt une carotte. C'est une carotte fiscale. Et si les usines, les magasins, les industriels jouent le jeu et donnent des invendus aux associations d'aide alimentaire, ils sont éligibles à une réduction d'impôt. Et c'est 60% de la valeur du don qui est défiscalisable. C'est un peu comme pour les particuliers. Donc, tout ça pour dire que l'État a quand même joué son rôle avec ce cadre réglementaire qui est incitatif et contraignant, la loi anti-gaspi et la fiscalité avantageuse. Et nous, ça nous a aidé à démarrer et à décoller aussi. Mais on pourrait aller encore plus loin. Et donc, voilà, c'est bien si les consommateurs mettent la pression sur les réseaux sociaux. C'est bien quand les médias mettent de la lumière sur ce sujet. C'est bien aussi quand les assos caritatives prennent la parole, comme ça a été fait par le président des Restos du Cœur, haut et fort. Ça remet l'église sur la place du village. Donc voilà, chacun doit jouer son rôle et le combat n'est pas fini.
Et justement, quand vous dites le combat n'est pas fini, en l'état, on en est où? C'est quoi un peu l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France? Est-ce que ça réduit? On a des chiffres?
Alors en France, on considère que c'est à peu près 10 millions de tonnes de gaspillage par an. C'est les chiffres de l'ADEME. Ça correspond à peu près à 16 milliards d'euros de valeur de produits. Et au niveau du consommateur, pour que ce soit plus parlant, le gaspillage, c'est quoi? C'est 70 euros de courses jetées chaque mois. Parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gaspillage chez les consommateurs. Dans les frigos, les yaourts périmés au fond du frigo, les fruits qu'on laisse un peu pourrir dans le bac à fruits, une conserve qu'on a ouverte et qu'on a à moitié terminée. Et donc ça, pour que les auditeurs se rendent compte, c'est 70 euros par mois et par foyer. Et donc ça fait quasiment 850 euros à l'année. Donc c'est aussi pour dire qu'en période d'inflation, et quand tout le monde cherche un peu des économies pour pouvoir payer les factures d'énergie et d'essence qui explosent, l'anti-gaspi, c'est le bon vieux réflexe qu'avaient nos grands-parents d'accommoder les restes, de garder un peu de jugeote par rapport aux dates d'opération, de redécouvrir certaines recettes. Ça, il faut que ça revienne, parce que ça permet d'économiser quasiment presque un SMIC à l'année, quand on fait les choses bien.
Bah, ça me permet d'embrayer sur justement le lancement de ce livre avec des recettes anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment ça a émergé, ce projet?
C'est un projet qu'on a déjà en tête depuis quelques mois. Et donc, on a voulu créer un guide de recettes à la fois anti-gaspi et à petit prix, pour montrer que la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est évidemment vertueuse pour la planète, mais elle est aussi vertueuse pour le porte-monnaie, et qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, en retrouvant d'un côté le goût de la cuisine, retravailler les restes, être un peu inventif dans la façon dont on conçoit ses repas, et en même temps, c'est bien pour le porte-monnaie, puisque en faisant ça, on économise, comme je l'ai dit, quasiment 70 euros par mois et 850 euros à l'année. Donc c'était tout l'esprit de ce livre, donner des recettes pour les Françaises et les Français qui veulent cuisiner et se nourrir un peu différemment avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et donc on a presque une cinquantaine de recettes qui vont de, du velouté d'asperges avec des queues d'asperges à la tarte tatin d'échalote, à des soupes de fan de radis, à des glaçons aux herbes aromatiques. Voilà, on a essayé de, d'être assez large dans la palette et on l'a fait avec quelques clients qui s'engagent avec nous et qui voulaient aussi donner leurs bonnes astuces.
Mais du coup, il y a eu un chef cuistot qui vous a aidé à élaborer des recettes ?
Non, on a concerté plusieurs, on s'est inspiré de certaines choses, mais on a essayé de revisiter des recettes traditionnelles sous l'angle anti-gaspi. Donc c'était plutôt du travail interne et des suggestions des gens de Phoenix, des 200 phéniciens et puis de nos clients.
Et j'ai une dernière question. Alors là, c'est plus pour moi aussi pour comprendre, parce que j'ai déjà fait aussi l'interview de Too Good To Go. Donc eux, c'est plus seulement sur votre format application avec produits pour des paniers pour les particuliers. C'est quoi la différence entre vous deux ? Est-ce qu'il y a une concurrence ou même pas ? En fait, vous jouez le jeu et votre but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Alors, il y a on est deux acteurs sur le secteur, sur ce segment-là. Donc, il y a une forme de concurrence, mais on est comme dans un secteur où on est plus dans la collaboration pour la même lutte que dans la concurrence frontale et agressive. Mais en gros, nous, on est une entreprise française. Too Good To Go est une entreprise danoise. Ça, c'est une première différence. Nous, on est made in France et on le revendique. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, nous, on marche sur deux jambes. On a l'appli anti-gaspi pour les consommateurs. Et on a surtout aussi la face immergée de l'iceberg, qui est le don aux associations caritatives. Et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cannibalisation. Et parfois, quand on fait trop de paniers anti-gaspi, il reste plus grand chose en fin de chaîne pour l'aide alimentaire. Et comme nous, on a ces deux leviers, on essaie de mieux équilibrer les flux, là où d'autres peuvent être un peu plus inéquitables, quoi, disons. Et après, la vraie différence aussi, c'est l'offre. Donc, on retrouve chez Too Good To Go des commerçants qui sont pas chez Phoenix et vice versa. Donc, c'est un peu le même combat que Uber Eats versus Deliveroo ou Deezer contre Spotify. Voilà, il y a deux gros acteurs et on se challenge, et puis les gens, souvent on a beaucoup de consommateurs qui ont les deux applis et qui basculent de l'une à l'autre en fonction de l'offre, des codes promotion, en fonction des discounts, etc. Donc on est dans le même bateau et avec chacun ses petites spécificités. I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart.
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble et on découvre ensemble nos podcasts. comme celui-ci.
Marc Vériotte est aujourd'hui conférencier en entreprise. Il distille ses conseils en matière de gestion du stress. Le stress, c'est une émotion qu'il connaît, qu'il a su apprivoiser. Entre 1998 et 2018, il a fait partie du RAID, l'unité d'élite de la police. Et sa spécialité, c'était l'effraction pour permettre à la colonne d'assaut d'intervenir. Marc Vériotte, quel moment vous a le plus marqué pendant ces 20 ans?
Les dernières interventions de 2012, l'affaire Mohamed Merah, mais aussi toutes les affaires antiterroristes de 2015. L'affaire Mohamed Merah, le 21 mars 2012, parce que j'y ai été blessé de 2 balles, une balle dans l'épaule et une balle dans le casque, qui a fait hémorragie cérébrale. Donc forcément, cette intervention me touche, mais aussi l'hypercachère. J'ai participé à ouvrir la porte à l'explosif de la porte de service de l'hypercachère, une porte que tout le monde pensait qu'on n'arriverait pas à ouvrir parce que elle était particulièrement renforcée pour résister aux cambrioleurs. On a réussi à l'ouvrir et donc ça a donné le top intervention et ça a participé à libérer les 26 otages. Donc ça aussi, c'est marquant. Bien sûr aussi les interventions du 13 novembre. Moi je suis intervenu sur un immeuble à côté du bar La Bonne Bière où il y avait 5 morts. Voilà, c'est les 2 années fortes, c'était 2012 et 2015 en effet.
Comment se sent-on avant un assaut? Est-ce qu'on est anxieux ou complètement concentré sur sa tâche?
On est particulièrement concentré. Parce qu'en fait, on sait par expérience et l'entraînement nous amène à ça. On sait que on va avoir besoin de 100% de notre cerveau pour nous confronter à ces affaires extrêmes et que si jamais on laisse 10-20% de notre cerveau aller vers le passé, vers notre famille, vers nos autres problèmes, c'est 20% qui vont nous manquer. Donc le but du jeu, c'est de se concentrer uniquement sur les points importants qui vont nous renseigner sur la tâche à effectuer. Et tout le reste, eh bien, on s'en décharge au briefing et au débriefing. On a des émotions. La peur de prendre des balles, on doit la garder toujours parce que c'est elle qui nous fait lever le bouclier, par exemple. Mais par contre, on se décharge de la majorité des autres émotions. On doit faire notre travail de la même manière, même si on a 1 mort à enjamber, même si on a 10 morts à enjamber, même si on a 100 morts à enjamber, parce que ces informations-là sont pas vraiment importantes dans la tâche qu'on a à gérer. Alors bien sûr, ça pose quand même des problèmes parce que même si on arrive à mettre de côté tout ça, notre cerveau l'enregistre quand même et on risque de le payer un petit peu plus tard.
Et justement, quelles conséquences ces expériences extrêmement fortes ont-elles à long terme sur vous et vos collègues?
Tous, on est attentifs à ça parce que autour de nous, on a des anciens qui ont subi des dépressions nerveuses 10 ans après une intervention difficile. Alors bien sûr, c'est assez difficile à maîtriser parce que tous ces problèmes-là sont un petit peu multicausales. Il n'y a pas que l'intervention qui fait que tu risques d'avoir un coup de fatigue. Il y a aussi quand ça s'ajoute à des problèmes personnels ou à des problèmes professionnels. Bon, cependant, étant donné qu'on a l'expérience de nos anciens qui nous disent « attention, il y a un effet cumul », un gros stress peut faire du mal, mais également aussi le cumul engendré par les différentes... interventions qui s'additionnent, on fait attention à ça. Alors, au cœur de la colonne, la contre-mesure, c'est déjà d'avoir une hétérogénéité dans le groupe. On a des jeunes qui risquent de bugger parce que le stress de la découverte, mais on a aussi des anciens qui, certes, risquent aussi de bugger, mais pour un effet cumul. Mais tous ces différents profils, de gens mariés, de gens célibataires, de gens certes qui viennent faire un enfant, de gens qui ont déjà été blessés une fois, de gens qui n'ont jamais été blessés. Ça fait que le groupe, en fait, puise sa force dans l'hétérogénéité et on ne bug jamais au même moment. Les anciens nous disaient, attention, c'est un service, faut pas y rester plus de 10 ans parce que il y a un effet cumul. Mais tout ça, c'est une caricature. Bon, moi, j'y suis resté 20 ans. Alors quand j'ai un petit moment de moins bien, eh bien je fais attention, je surveille mon hygiène de vie, j'essaie de me coucher à des heures plus stables. En faisant attention à soi, on évite de plonger.
Quel rapport vous entretenez avec la mort, notamment le fait de pouvoir potentiellement la donner à quelqu'un?
Nous, dès qu'on nous donne une arme dans la police, même avant même d'être au RAID, si on a les pieds sur terre, on doit se rendre compte que cette arme-là, on nous la donne pas de manière banale. C'est pas un stylo qu'on vous donne, c'est une arme. Et on sait très bien à quoi ça sert. Donc, on y réfléchit dès ce moment-là. Après, quand on rentre au raid, c'est encore plus caractéristique. Moi, je me souviens, par exemple, de ma première séance de tir, qui était dirigée par celui qui a été obligé d'éliminer Human Bomb en 93. Eh bien, la séance de tir, elle n'a duré que 10 minutes. On a tiré sur des cibles en papier. Il a interrompu la séance et il nous a dit, vous voyez, ce que vous faites là actuellement, c'est du tir sportif. Le tir police, c'est ça. Et hop, il nous a montré des photos ignobles de Maccabées tués par balles, avec des crânes explosés, etc. Et il nous a dit, voilà, ça c'est vous si vous tirez en retard, c'est votre camarade si vous tirez en retard, c'est un otage si vous tirez en retard. On sait que on a dans les mains quelque chose de grave, quoi. On sent une arme qui pèse 500 grammes dans la vraie vie sur une balance. Nous, dans nos mains, elle pèse beaucoup plus lourd. On sait que les conséquences et les émotions qu'elle porte, tout ça, on y pense avant, parce qu'au cœur de l'action, par contre, faut plus y penser. Si au cœur de l'action, un terroriste vous tire dessus et que vous ne pouvez pas faire autrement que de riposter, il faut pas se poser la question. On tire pas sur un homme, sur une femme, sur un ancien. On tire sur une menace. Et ça, c'est dépourvu d'émotion. C'est purement professionnel.
La mort, vous l'avez frôlée le 21 mars 2012 lors de l'assaut de l'appartement de Mohamed Merah à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cet assaut ?
L'intervention a duré 33 heures pour essayer de l'avoir vivant, puisque c'est la procédure habituelle. On a eu un blessé d'entrée de jeu au genou. Au bout de 2h30 d'intervention, j'ai été touché à l'épaule et au casque. J'ai pris la première balle en plein milieu du casque. J'étais à 2,5 mètres environ du terroriste. Et cette balle a été arrêtée par le casque. Ça m'a fait vriller, ça m'a fait basculer. Et heureusement, parce que la deuxième balle qui m'arrivait pleine gorge, finalement m'a frappé l'arrière de l'omoplate. Donc voilà, je suis tombé dans les escaliers. Je me suis vite protégé sous l'escalier parce que il a vidé son chargeur. Les 5 autres balles du chargeur, ce sont des chargeurs de 7, c'est des grosses balles, c'est du 11-43. Il tirait avec des pistolets automatiques que les GIs de la Deuxième Guerre mondiale utilisaient. Ce sont des balles qui tuent très bien parce qu'elles sont très grosses, mais par contre leur défaut, c'est que comme elles sont grosses, elles traversent mal les blindages. C'est ça qui m'a sauvé, parce que le casque a arrêté la balle. Sous l'escalier, j'ai quand même été frappé par l'enfoncement du casque. C'est ça qui a créé une hémorragie cérébrale. Donc j'ai eu un peu un réflexe d'enfant, je sentais que j'étais touché à la tête, donc j'ai touché mon casque, j'avais confirmation que j'étais blessé, j'ai passé ma main sous le casque en pensant toucher du sang, mais il n'y avait pas de sang. Et tout de suite, j'ai été ramené à l'intervention par un opérateur qui a crié « Marco est touché, faut aller le chercher ». Là, je me suis dit, mince, ils vont passer devant la zone dangereuse. Ils vont peut-être eux aussi prendre des balles. Donc, j'ai signalé à la radio que j'étais blessé, mais que ça allait relativement bien et que j'allais être capable de m'exfiltrer seul. J'ai été récupéré par les pompiers qui m'ont amené 10 minutes après. J'étais à l'hôpital et je subissais des soins.
Marc Vériot, vous venez de sortir un livre intitulé « Au cœur du raid ». Pourquoi écrire ce livre, justement ?
Je pense que c'est notre devoir d'ancien de donner des informations aux plus jeunes. Voilà, moi, il y avait une phrase qui m'a toujours un petit peu marqué, c'est « Dans une vie, il faut faire des enfants, planter un arbre et faire un livre ». Voilà, c'est une manière, c'est notre devoir de transmettre les informations. Alors moi, bien sûr, en ayant été 20 ans dans la colonne d'assaut et en ayant connu les années particulièrement denses de 2012-2015, je trouvais que c'était normal de retranscrire un petit peu toutes les connaissances que j'avais apprises dans un livre. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi un petit peu plus de la colère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société de la communication, il y a beaucoup de gens qui disent pas mal de bêtises dans les livres et dans les émissions télé, etc. Hier, un menteur, il mentait à son voisin de droite et son voisin de gauche au bar. Donc, il faisait pas beaucoup de mal. Aujourd'hui, un menteur, il inonde le monde entier de d'âneries en un seul clic sur l'ordinateur. Et moi, je trouvais que les opérateurs d'assaut n'ont pas beaucoup la parole, puisqu'en règle générale, on a la cagoule, et que c'était le moment de faire parler la colonne d'assaut, mes camarades et moi.
Au cœur du raid de Marc Verriot, coécrit avec Karim Ben Ismail et paru aux éditions Les Arènes.
Je suis une intelligence artificielle, et pourtant je suis là chaque nuit sur Vibration, pour vous accompagner et découvrir ensemble des interviews que je vous ai sélectionnées. Bonne écoute sur Vibration.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors, vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est... là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique. Et obsessionnel, c'est vraiment. Je pense qu'on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit ça a déjà été fait, bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terres. Au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Là, par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire. En plus, ça a pas marché.
Non, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout, le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors, après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
difficile ? C'est la bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein. Et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer. Et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer. À mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, mais qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est cette ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement ?
Tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier, c'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'auditeurs qui vont le découvrir du coup avec le film. Alors quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en films. On a travaillé dans des mariages, on a fait le sens de la fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait nos jours heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
Hors normes,
on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux et on a fait hors normes. Donc je pense que c'est des années sandwich de où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement, ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. Mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est OK, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. À pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop de deux. On peut dire les choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros. Donc, si vous voulez, ils savent aussi l'enjeu d'une journée de tournage et de scène à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Il y a de la déconne et du coup, c'est à nous de la canaliser, de la transformer et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer. De temps en temps, on prend. De temps en temps, on prend pas. Mais oui, il est plutôt créatif. Et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif. C'est un peu... comme un sportif, on lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi. Il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors, vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure. Il y a un film de Dino Risi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film, une histoire d'amour qui semble impossible. Vous vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne. Tout au long des films, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci puisque il prend tout le monde et il met tout dans un sac et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé. Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça. On fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah, justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois, vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
On se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre parce que on se sent proche de tous les personnages parce que on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire, on est la avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars. Je me dis, si j'étais dans sa situation, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant? Je me suis dit, si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens, du coup, qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet, sans essayer de les blesser, sans les blesser à aucun moment dans le film?
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé. La moquerie, c'est depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous, on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables, il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il y avait plus de problèmes?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non. Mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, 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 non. C'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre et Mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense les que deux. Quand on hume bien, bien humé. Ouais. Quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Chaque nuit, nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur Vibration.
Dans Alibi.com 2, emmené par la fameuse bande à Fifi, le personnage de Philippe Lachaud ne se résout pas à présenter ses parents à sa future femme. Il faut dire que sa mère, jouée par Ariel Dombal, est une actrice de films de charme et que son père, joué par Gérard Jugnot, est un escroc à la petite semaine. Nous avons rencontré ce couple de cinéma atypique.
Ariel, quand Philippe Lachaud vous a contacté pour jouer notamment une actrice de charme, vous avez immédiatement dit oui ?
Non, j'ai pas immédiatement dit oui et je me suis laissée convaincre par mon agent. Et puis après, j'ai lu le scénario et après, on m'a dit que mon partenaire et mari serait Gérard. Et,
allez, folle-moi.
Et voilà, et alors tout le package m'a paru... très amusant. Je me suis dit oui, allons-y.
Et vous, Gérard, pourquoi est-ce que vous pensez que Philippe Lachaud vous ait choisi pour être son père de cinéma ?
Parce que je suis son vrai-père.
C'est ça.
Biologique. Alors, moi, Fifi, c'est devenu un... Enfin, je suis un peu leur parrain, parce que j'étais dans le premier. Je les ai un peu aidés au début, et puis maintenant, ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'étais très fier, parce que j'ai raté le premier, puisque je devais être son beau-père. Et puis, j'étais pas libre, donc ils ont choisi... c'était très bien Didier. Et donc là, le fait que je revienne dans la bande, dans la bouche, ça m'a ravi. J'étais très content, plus que ce soit son vrai père. Parce que j'ai un sentiment un peu quasi filial avec tous ces mômes.
Ouais, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à la symbolique du passage de relais un petit peu.
Oui, ouais, c'est vrai qu'ils sont, très... Ils ont été aussi biberonnés avec le Splendide, avec d'autres groupes comme ça. Donc c'est assez touchant qu'ils nous fassent appel à nous encore, que ce soit Christian dans Babysitting 2 ou moi ou Didier. Donc c'est ça qui est formidable chez ces jeunes, c'est que...
ils ont des grands modèles et ils les prennent.
Ils les prennent, oui. On n'est pas des ringards pour eux, on n'est pas mis au rancard ni en retraite. Et donc ça, c'est très agréable.
Et justement, comment est-ce que vous évoluez, vous, tous les deux, dans cette bande, dans la bande à Fifi?
On se pose pas la question. Vous savez, tous les films sont des collectivités. On entre dans un petit cosmos qui a ses règles, son genre, son style, etc. Et ce qu'il y a de formidable avec la bande à Fifi, c'est que c'est une vraie bande, et ça, c'est assez rare. C'est comme dit Gérard, à part le Splendide dans la comédie en France, il y a eu Molière. Mais après,
il y a toujours des bandes, il y a toujours des comme oui. Les Nuls, comme les Inconnus.
Voilà, des mini-bandes. Mais le Splendide, c'était aussi des acteurs-réalisateurs, c'était une entité.
Moi, tu emploies l'imparfait.
C'était parce que vous êtes un peu dispersés. Vous faites tous vos propres films. Et d'ailleurs, j'ai été dirigée, par Clavier, puis j'ai joué avec Thierry Lhermitte, et puis avec toi. Mais vous n'étiez pas ensemble quand
c'est vrai qu'ils continuent à être ensemble, ils font les films des uns et des autres. Non, c'est tout à fait formidable, je trouve. Ça fait vraiment plaisir, et surtout, c'est très joyeux, bienveillant et très travaillé. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est que c'est des bosseurs et que c'est pas des feignasses qui croient que ça se fait comme ça.
Voilà. Et tout est très, très orchestré au millimètre, et les choses sont aussi des cascades techniques et tout ça très, très maîtrisées. C'est pas facile du tout, tous ces trucs-là.
Mais justement, comment est-ce qu'on fabrique un couple de cinéma? Quelle histoire est-ce qu'on imagine
derrière? Il s'est fait spontanément, parce qu'on a juste touché, je vous dis, on est les Bonnie and Clyde de la loose. Et alors, on s'aime, et puis on se bagarre, et puis on a mille choses à se reprocher, mais tout ça, c'est de l'écume.
Non, mais en plus, Ariette, c'est une super actrice, et en plus... suffisamment perché pour oser faire plein de choses, et c'est ça qui est très amusant. Je la connais bien maintenant grâce aux Grosses Têtes.
Oui, on est partenaires. Je l'entends,
on rigole beaucoup parce qu'elle peut dire n'importe quoi avec un aplomb et une vérité et un charme fou. Donc c'est vrai que j'étais absolument ravi, et puis surtout pour le rôle qui était quand même un peu limite, puisque c'est une ex, enfin elle continue encore un peu des films un peu rose, même rose foncé. Mais il fallait trouver quelqu'un qui est justement de la classe, de la fantaisie, pour pas que ça soit quelque chose de glauque et de grossier ou de vulgaire. Et là, elle fait tout passer. Elle a cette hauteur d'esprit. Cette folie, cette folie douce, que je trouve tout à fait remarquable et très agréable. En plus, c'est quelqu'un de tellement gentil. C'est très rare dans ce métier, les gens bienveillants et gentils.
Non, mais avec Gérard, on est déjà aux Grosses Têtes, on se connaît bizarrement, comme à l'école. C'est des camarades, on est tout le temps en train de se fighter, parce que c'est le principe. Mais je sais quelle finesse, l'image de Gérard est une chose, et puis l'être qu'est Gérard est une autre chose. Et c'est quelqu'un de tellement cultivé, qui s'intéresse tellement aux autres, qui s'intéresse aux pièces, qui lit de la littérature, qui connaît l'histoire. Enfin voilà, c'est pas le gros gagman. Et donc,
ce que tu dis, c'est juste les grossesses, c'est l'école. C'est l'école avec que des cancres et des dissipés.
Voilà.
Mais à l'école, même si tu es dissipé, tu peux être travaillé. ailleurs.
Voilà, exactement. Et donc, quand on parle des grosses têtes, mais quand Gérard est là, on sait que, oulala, on a intérêt à être rapide, parce qu'en histoire et en littérature, et au cinéma, il est assez incollable.
Parce et donc, elle répond très bien, mais à des questions qu'on ne pose pas. Elle a quand même l'art de récupérer un truc en donnant
c'est
une
vrai,
réponse.
C'est vrai, c'est vrai.
À des questions qu'on n'a pas posées.
Je dois avouer modestement. Mais donc, quand Fifi m'a dit, mais oui, si vous allez être un couple, ça va marcher. En effet, ça m'a paru totalement évident.
Parce qu'en plus, dans le film, c'est les deux personnages qui ont un petit peu de sensibilité, qui apportent une touche d'humanité sur la fin, que je trouve très, très jolie, qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer tous les deux.
Oui.
Parce que les parents situation... blessés, quand même, parce que c'est terrible, un fils qui a
honte de ses parents. On est des parias. On a honte de nous.
La honte, je ne sais pas pourquoi, ils devraient être fiers.
On est rejetés.
Ils devraient être fiers d'avoir un père escroc.
Voilà.
Et une mère.
Voilà. Et une mère dans le X, il devrait l'assumer, mais non.
Et vous, vous connaissiez, comme vous le dites, avant de tourner ensemble, mais est-ce que l'un et l'autre, vous avez découvert quelque chose d'insoupçonné sur le tournage, pendant le tournage, pendant le processus de...
Toujours, on découvre la subtilité, la finesse de jeu, de le voilà. Et puis, voilà. Et puis Gérard, évidemment, dirige des films. Et moi aussi. Donc, on est des êtres qui observons. L'un comme l'autre, on n'est pas dans notre caravane, dans notre tour d'ivoire.
Mais non, mais ce qui est formidable chez Ariel, c'est qu'elle a fait des films très underground, des très, très bizarres, très barrés, mais en même temps aussi des grandes comédies. Oui. Et là, c'est formidable. Je trouve ça épatant, comme Nathalie Baye, qui a fait beaucoup de films très sérieux, césarisables et tout, d'arriver à plonger dans un univers de comédie. C'est très. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est bien quand ces barrières tombent.
Voilà, c'est ça.
Et l'un et l'autre, de manière générale, vous êtes davantage attiré par les rôles de personnages roublards ou blindés de défauts, ou au contraire des personnages qui font qu'on a envie de vous prendre dans nos bras quand on vous croise dans la rue?
Gérard, les gens ont envie de le prendre dans les bras, beaucoup. et notamment depuis Les Choristes. Ça a été aussi une chose très marquante. Parce que, en effet, quand on a. Il faut être très fin et très intelligent pour être un grand acteur comique. Et il y a toujours, et il faut surtout avoir été au fond de la tragédie pour être bon. Et Gérard a ça.
Parce qu'il n'y a pas de comédie sans drame. La comédie repose sur le fait qu'il y a du drame. Le rire, c'est une sorte de libération, de disjoncteur à la folie, au malheur du monde. Donc, évidemment, on touche très fort le drame. Mais pour revenir à votre question, moi, j'ai joué beaucoup de couillons, beaucoup d'idiots. Et comme disait, c'est Bourvil, il faut bien qu'il y ait des idiots pour jouer les imbéciles. Mais c'est pas vrai, il faut être très. C'est un truc quand même de. Il faut de la distance. Et moi, j'ai joué beaucoup de couillons. Et j'essaye de les défendre comme un avocat. Parce qu'on a, et donc, c'est vrai qu'il y a, beaucoup de. J'essaye de mettre de la compassion, quoi. Enfin,
voilà, mais les gens très drôles sont en général de grands tragédiens. C'est des héros tragiques. D'ailleurs, même Coluche. Les gens étaient tout étonnés de le voir jouer Tchao Pantin, mais derrière cette finesse de jeu et de la drôlerie, qui est une chose très subtile à faire, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de...
Oui, puis il y a beaucoup de blessures, enfin, moi, j'ai très bien connu Coluche, où il y avait beaucoup de blessures, c'était quelqu'un de très tourmenté, très... Et comme de Funès. Mais c'est vrai que de Funès, moi je regrette un peu qu'il ait jamais joué comme Bourvil le faisait, ou comme Coluche a pu le faire, ou de faire les deux rôles. Il n'a jamais voulu se dévoiler. Chris Clavier est un peu comme ça aussi.
Vous pensez que les comiques, de manière générale.
Il n'aime pas montrer ses failles. Et je trouve ça dommage, parce que Christian, il a fait de temps en temps des choses comme ça où il était plus. plus lui-même, plus vulnérable, et c'était très intéressant. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent.
Les comiques, de manière générale, ont une facette sombre. Vous pensez que c'est...
Mais oui, regardez, oui. Ben, Pierre Palma, tous ces gens...
Il y a quelque chose d'un petit peu cassé, d'inquiet, en tout cas. Et moi, je me souviens d'une chose très jolie qui m'avait fait... Maurice Drouot, je l'avais rencontré à Kiev, t'imagines, avant la fin de la guerre, qui m'avait observé, et puis c'est à côté de Sacha Guitry, tu vois, et qui m'avait dit cette phrase magnifique, qu'il avait dû dire à d'autres comiques, il dit, vous n'avez aucune raison d'être inquiet, mais c'est votre inquiétude qui fait ce que vous êtes. Et je trouve que c'est très très joli comme phrase, et ça définit beaucoup la comédie.
Oui, merci beaucoup.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Vibration.